femme. Nous qui n'avons pas
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia. Logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé. Xugo alrasadas, mulleres trafegadas, violadas dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, pour commencer, je vais vous parler du rapport CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, puisque j'en ai pas encore parlé dans cette émission. Donc, je vais m'appuyer sur un article de Lord aussi, journaliste à Charlie Hebdo. Donc, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, CIAZ, est une commission historique qui a été demandée de longue date par les victimes de pédocriminalité perpétrées par les membres du clergé. Elle a rendu son rapport après 26 000 heures de travail, 2 ans et demi d'audition et de recherche. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, en est le président. Elle est composée de 22 membres, des juristes, des spécialistes de l'enfance, des psychologues, tous bénévoles. Dotée d'un budget de 3,5 millions d'euros, le travail de cette commission, la CIAZ, a été considérable. Son objectif, cartographier le plus précisément possible les faits, le nombre de victimes, les mécanismes qui ont conduit à ces abus sexuels et surtout les failles de l'Église. Pour cela, elle avait lancé un vaste appel à témoignages via la plateforme d'aide aux victimes de la Fédération France Victimes. Elle a mené également une enquête dans les archives de l'Église, les archives judiciaires et les archives policières. Les chiffres sont colossaux. Entre 2900 et 3200 pédocriminels au sein de l'Église, et encore, il s'agit de la fourchette la plus basse, c'est ce qu'a précisé Jean-Marc Sauvé. Concernant le nombre de victimes, le chiffre de 10 000 avait été annoncé en mars lors d'un point d'étape qui se fondait sur l'appel à témoignages. C'est en réalité beaucoup plus. La commission a en effet lancé en parallèle une grande enquête statistique menée par Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, auprès de 28 000 personnes. Pour comprendre, au-delà des témoignages, quelle est la proportion de personnes touchées par la pédocriminalité dans la société et dans quel cadre. C'est la partie la plus édifiante du rapport de la CIAZ. D'après cette enquête, on aboutit au chiffre de 216 000 victimes dans le cadre de l'Église depuis 1950. Ce chiffre passe à 330 000 si l'on compte les victimes des laïcs en mission d'Église, comme pour le catéchisme ou l'aumônerie. Autre information, les victimes sont en grande majorité à 80% des garçons et ont la plupart du temps entre 10 et 13 ans. 56% des victimes l'ont été entre 1950 et 1970. Alors, on peut se demander quelle est la part de la pédocriminalité dans l'Église par rapport au reste de la société. Eh bien, ce rapport nous dit que c'est entre 2 et 3 fois plus que le nombre de personnes victimes de ce type d'abus au sein de clubs de sport ou autres organisations de jeunesse. Mais le pire demeure le cercle de la famille, dont la prévalence serait 3 fois plus importante. Et dans les familles, ce sont les filles qui sont victimes à 80%. Ces conclusions sont une déflagration pour l'Église et pour la société dans son ensemble. D'ailleurs, selon nos infos, le patron de la commission Jean-Marc Sauvé et Nathalie Bajos avaient rendez-vous avec le Premier ministre pour en parler la semaine dernière. La commission aura permis de dresser un tableau de la situation en France concernant les abus sur mineurs, ce qui étonnamment n'avait jamais été établi jusque-là. Ce sont des chiffres qui nous font suffoquer, nous dit une personne qui a suivi de près les travaux de la commission. Au cours de sa conférence de presse, Jean-Marc Sauvé a fait part de sa stupeur sur tout ce que la commission a découvert, comme le fait que dans certains cas, le sacrement de pénitence a servi de cadre à certaines violences sexuelles. La SIAZ a établi 45 recommandations, parmi celles-ci, changer le mode de gouvernance dans l'Église. La SIAZ a été horrifiée de constater combien, en cas de problème, les évêques ont tout pouvoir, ils sont juges et parties, même chose d'ailleurs pour les prêtres. Il nous semble indispensable de nous pencher sur tout ce qui a pu nourrir ou justifier les abus sexuels et notamment une hyperbolisation du pouvoir du prêtre, l'identification du prêtre au Christ, a souligné Sauvé. C'est aussi tout le rapport à la sexualité que l'Église est invitée à revoir. Une conception exclusivement taboue de la morale sexuelle a été susceptible de créer des points aveugles sur des agissements graves. La mise sur le même plan des relations hors mariage entre personnes consentantes et des crimes sexuels doit être revue, a-t-il ajouté. Autre proposition potentiellement explosive, rompre avec le secret de la confession dans le cas où le confesseur prend connaissance d'un crime. Enfin, la commission demande à l'Église des réparations financières pour les victimes sur la base du préjudice subi. Dans l'esprit de la commission, ce n'est pas un don, mais un dû. L'Église a une créance envers les victimes. Alors, donc il y a encore quelque chose à ajouter. Donc, lors de la remise du rapport, Éric Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a exprimé sa honte et son effroi, je cite, et a esquissé une demande de pardon, sans pour autant assurer un changement fondamental dans l'Église. C'est bien le problème. Intervenant au début de la conférence de presse, François Deveau, cofondateur de l'association des victimes La Parole Libérée, donc c'est le nom de son association, a lancé « Il faut refonder le système de l'Église dans des proportions considérables. Ça ne peut être qu'un Vatican III. Avant de marteler et d'inviter la salle à répéter avec lui, vous devez payer pour tous ces crimes. » Alors, zut, je suis dans le studio, il y a le téléphone qui sonne, ça me dérange. Donc, 2 secondes, je vais arranger ça, je reviens tout de suite. Voilà, désolée. Donc, alors, je vais rebondir justement sur ce qui a été dit par rapport à l'idéologie chrétienne, par rapport à la hiérarchie dans l'Église, par rapport à l'organisation de l'Église. Et vous rappelez en fait que pour cela, j'en avais parlé en fait dans un podcast qui est un peu vieux maintenant, mais qui est toujours à l'ordre du jour, qui date du 11 novembre 2019. Et je m'appuyais pour cela avec des extraits audio et des textes de Agnès de Préville, qui est une spécialiste. Et donc, le titre, c'était « L'imaginaire catholique ou comment faire taire les femmes à l'ère de MeToo ». C'était une intervention qu'elle avait faite pendant une université à l'Assemblée des femmes. Donc, Agnès de Préville, elle est essayiste, membre du bureau de l'Assemblée des femmes. Elle est consultante en égalité professionnelle. Elle lutte contre les discriminations. Et donc, lors de l'université d'automne de l'Assemblée des femmes à La Rochelle, elle a fait une intervention par rapport à un livre qu'elle a publié avec Sabine Sauré qui s'appelle « Le déni, enquête sur l'Église et l'égalité des sexes » afin de comprendre par quel mécanisme la discrimination des femmes est maintenue dans la société comme dans la religion. Comprendre comment l'Église catholique est encore matrice des stéréotypes patriarcaux. Pour cela, elles ont à travers l'étude fouillée des textes du Vatican, l'histoire du christianisme et de la société, les représentations symboliques des sexes et du pouvoir, systématiquement interroger les questions taboues de la domination masculine dans l'Église et d'une conception de la masculinité qui reste toxique pour les femmes et les enfants. La sexualité, la non-reconnaissance des femmes, le pouvoir absolu du pape, le statut sacralisé du prêtre. Oui, ça me fait penser que là, dans ce rapport, on a parlé donc de pédocriminalité sur des enfants, majorité des garçons. Il y a aussi un énorme problème de viol sur les femmes dans l'Église, sur les sœurs, les bonnes sœurs dans l'Église, dont ce rapport n'a pas parlé pour l'instant. L'institution catholique est un bon exemple d'étude pour comprendre les ressorts du masculinisme, car les papes se sont posés en virilistes, en chefs, et ont théorisé depuis des siècles l'antiféminisme qui nourrit un imaginaire encore actif dans nos sociétés. Donc c'est une des citations de Agnès de Préville. Et il y a quatre chapitres principaux qui sont très intéressants pour comprendre en fait comment l'idéologie de l'imaginaire catholique est en fait l'idéologie du patriarcat. Donc quatre parties que vous retrouverez donc dans ce podcast, mais je vais vous les énumérer. Première partie, comment le masculin clérical s'identifie au pouvoir, au sacré et au divin, triple monopole. Il a institué la religion à partir de la supériorité masculine doublée de la dévalorisation des femmes. Deuxièmement, les mécanismes d'emprise sur les femmes pour maintenir le système de soumission. Qu'est-ce que le magistère romain, sinon un flot ininterrompu de paroles masculines pour assigner aux femmes un rôle spécifique, combattre leur autonomie, contrôler leur corps et finalement décider de leur vie. Le discours des papes successifs est bien celui de la domination sur les femmes. Troisièmement, la défense du patriarcat contre l'égalité femmes-hommes par des stratégies rhétoriques et politiques. La hiérarchie catholique érigée en homosocialité mène des combats politiques contre l'égalité femmes-hommes en défendant à tout prix la complémentarité sexuée pour maintenir son emprise sur les sociétés et contrôler les consciences et les sexualités. Quatrième partie, l'Église est rattrapée et débordée par les scandales liés au pouvoir et au sexe. La cohérence de l'institution est en train de s'effondrer, mais son influence politique demeure. Donc voilà, la quatrième partie, eh bien, elle en parlait déjà évidemment, de pédocriminalité, de crimes sexuels aussi sur les sœurs, les femmes dans l'Église, qui sont victimes de viols. Et là, ce rapport n'en a pas parlé. Donc, voilà, pour continuer dans la thématique des violences sexuelles faites aux enfants, je vais maintenant vous parler de Muriel Salmona, de son travail très 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 précieux. Donc Muriel Salmona, c'est une psychiatre qui est présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Donc, à l'abréviation de cette association, c'est AMTV, et elle est membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle publie très souvent, et elle a écrit de nombreux livres pour parler, donc expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les violences sexuelles. Elle a travaillé sur l'inceste, elle a travaillé aussi, évidemment, elle est abolitionniste de la prostitution. C'est évident pour elle comme pour nous que la prostitution est le maximal des violences sexuelles faites aux femmes, la légitimation de toutes les violences faites aux femmes aussi. Voilà, donc je vais vous faire part donc d'un article, parce qu'elle a écrit des livres qui sont vraiment très très intéressants. je ne vais pas pouvoir vous lire un livre entier. Mais récemment, elle a publié sur ce thème qui est « Légitimer les victimes pour délégitimer les violences ». Donc je vais vous lire ceci, puisque vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Les violences physiques, psychologiques ou sexuelles sont une atteinte grave à la dignité, à l'intégrité physique et mentale et aux droits des personnes et se produisent le plus souvent dans les milieux censés être protecteurs, comme la famille, le couple, les institutions. Malgré leurs lourdes conséquences à long terme sur la vie et la santé des victimes, elles restent cachées et maquillées en amour, désir, éducation, soins, liberté, ou bien considérées comme une fatalité. Déni, loi du silence et culture anti-victimaire leur assurent une grande impunité. Les victimes de ces violences intrafamiliales, conjugales, institutionnelles sont le plus souvent réduites au silence, culpabilisées. Leurs plaintes sont considérées comme illégitimes et leurs paroles non crédibles, a fortiori si elles sont victimes de violences sexuelles. Ce n'est qu'à la faveur de mouvements de témoignages massifs depuis 2017, tels que MeToo et plus récemment en France MeToo Inceste, que la société commence enfin à ouvrir les yeux. Quel que soit le milieu où elles se produisent, ces violences s'exercent dans le cadre d'un rapport de force et de domination et dans un contexte d'inégalité et de discrimination le plus souvent sexiste. Les victimes sont essentiellement des personnes vulnérables et discriminées, des enfants, des femmes, des personnes en situation de handicap, placées en institution, psychiatrisées, ou en situation de grande précarité ou de marginalisation. Le risque de subir des violences augmente si plusieurs de ces facteurs sont cumulés. Une femme en situation de handicap voit son risque de subir des violences sexuelles multiplié par 2. Une fille en situation de handicap par 3. Et si le handicap est intellectuel ou mental, il est multiplié par 5. Comment des violences aussi injustes, inhumaines et traumatisantes qui mettent en péril le contrat social de nos sociétés démocratiques peuvent-elles persister, voire s'aggraver? Donc nous avons le thème fondamental de l'impunité de la justice par rapport aux violences sexuelles, thème que j'aborde régulièrement dans cette émission. L'exemple des violences sexuelles est à cet égard frappant. Les filles et les femmes en sont les principales victimes, essentiellement au sein de la famille et du couple. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rapporte qu'une femme sur 3 a subi des violences sexistes ou sexuelles, qu'une fille sur 5 et un garçon sur 13 ont subi des violences sexuelles. En France, les enquêtes de victimation évaluent à 135 000 le nombre de viols et de tentatives de viol, donc des crimes, subis par des filles chaque année. 96 000 pour les femmes, 30 000 pour les garçons et 16 000 pour les hommes. La majorité de ces violences sexuelles commencent avant l'âge de 10 ans. Ce sont des violences masculines et commises par des proches dans plus de 90% des cas. La pédocriminalité sur le net explose. Si en 2014, on recensait 1 million de photos et de vidéos pédocriminelles, en 2018, il y en avait 45 millions et en 2019, plus de 70 millions avec des enfants, dans plus de 90% des cas, des filles de plus en plus jeunes, entre 3 et 13 ans, exploitées le plus souvent par des membres de leur famille, des hommes, dans 99% des cas, et subissant des actes de plus en plus barbares. La France est le 3e pays du monde et le 2e en Europe en nombre de sites et d'utilisateurs. Devant ces chiffres alarmants, la faillite de l'État est quasi totale. La France ne remplit pas ses obligations internationales pour prévenir ces violences, qualifiés d'actes cruels, dégradants et inhumains par le droit européen et de torture par le droit international. Soit protéger et soigner les victimes et punir les auteurs. La grande majorité des victimes n'est pas identifiée, ni secourue, ni protégée, et ne reçoit pas de soins adaptés. Seul 1% des violeurs sont jugés. Infostat Justice a publié en 2018 les chiffres suivants pour les viols. Sur les 10% des viols faisant l'objet de plaintes, 74% de ces plaintes sont classées sans suite. Donc là, je précise pour ceux qui ne sont pas bien au courant, mais seule une femme sur 10 prend le risque de porter plainte. Enfin, prend le risque parce que malheureusement, vous voyez que ça, ce qui se passe ensuite quand elle porte plainte, eh bien, sa plainte est classée sans suite la plupart du temps. Alors, je poursuis. Donc, sur les 10% des viols faisant l'objet de plaintes, 74% de ces plaintes sont classées sans suite et seulement une sur 10 sera jugée en cour d'assises, d'où le chiffre de 1% des violeurs qui seront jugés pour ce crime en France. Depuis 10 ans, les condamnations pour viol ont diminué de 40%. Ça aussi, je souligne vraiment cette information terrible sur où on en est en France, contrairement à ce qu'on croit, à ce que j'entends souvent, très souvent, mais oui, tout va mieux quand même avec MeToo, etc. Oui, oui, la parole est libérée, mais en fait, contradictoirement, la justice ne suit pas du tout, puisque depuis 10 ans, eh bien, au lieu d'avoir plus de condamnations pour viol, eh bien, c'est l'inverse, elles ont diminué de 40%. Alors que les plaintes ont bien évidemment augmenté. Pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs et la pédocriminalité en ligne, la France dispose de 14 enquêteurs contre 320 en Angleterre. Il a fallu attendre 2017 pour qu'un premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants soit mis en place et 2021 pour enfin obtenir un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans ainsi qu'à 18 ans en cas d'inceste, avec des crimes et délits spécifiques quand ils sont commis par des majeurs. Les victimes de violences sexuelles doivent survivre seules à des violences, d'autant plus traumatisantes qu'elles sont impensables pour elles et impensées par la société qui les nie ou les maquille. En grande majorité, ces victimes sont privées de justice, sont privées de soins, sont privées de réparation et n'ont aucune garantie de non-réitération des violences. Quand on leur demande dans des enquêtes de victimation quels sont pour elles les premiers recours, elles répondent « les médecins et la police ». Alors pourquoi sont-ils si peu formés et si peu protecteurs pour les victimes ? Que se passe-t-il pour que les droits des victimes soient à ce point piétinés ? Pourquoi tolère-t-on autant d'injustices et de pertes de chance pour ces victimes ? La réponse est peut-être dans notre société inégalitaire et son discours dominant, qui produit une incroyable propagande sexiste et anti-victimaire qu'on appelle la culture du viol, qui nuit gravement aux victimes, les rendant coupables de leur propre malheur, les présentant comme indignes et illégitimes, ne méritant pas qu'on soit solidaire avec elles. Cette propagande charrie des stéréotypes, des idées fausses et des mensonges qui résistent à toutes les grandes avancées depuis 20 ans dans la connaissance de la réalité de ces violences et de la gravité de leurs conséquences. Cette propagande omniprésente gangrène toutes les institutions. Elle empêche que les victimes soient entendues et reconnues et verrouille la mise en place de réformes ainsi que de formations nécessaires, que ce soit dans le cadre de la protection des victimes, de la prise en compte des psychotraumatismes et de la justice. L'enjeu pour sortir de cette situation pourrait être de respecter les droits des victimes pour qu'elles soient enfin légitimées. Car cet escamotage des victimes protège le mythe d'une société idéale, patriarcale, où les plus forts protégeraient les plus faibles, rationalisant ainsi les inégalités et les privilèges, ce qui rend les violences possibles. Exercer des violences de façon continue sur les plus vulnérables afin de les soumettre et de les exploiter suppose des complicités de la part de la société, des institutions et des proches, et un système qui, de génération en génération, produise des victimes et des agresseurs. Il faut que la victime ne puisse pas dénoncer les violences, ni surtout les reconnaître comme injustes et illégitimes, et que les rares victimes ou personnes protectrices qui signalent des violences ne soient pas crues. Pour cela, il faut nier la réalité de ces violences, leur ampleur et leurs conséquences, et diffuser des stéréotypes et des théories anti-victimaires. Les recherches internationales montrent que ces violences font partie des traumatismes les plus graves, à l'origine de blessures psychiques, d'atteintes cérébrales et d'un risque très important de développer des troubles psychotraumatiques. Ces psychotraumatismes sont dus à la mise en place par le cerveau de mécanismes neurobiologiques de sauvegarde équivalents à une disjonction des circuits émotionnels et de la mémoire pour échapper aux risques cardiologiques et neurologiques que fait courir le stress extrême provoqué par les violences. Cette disjonction produit une dissociation et une mémoire traumatique qui sont au cœur de toute conséquence psychotraumatique sur la santé mentale et physique des victimes. Sans prise en charge spécifique, elles ont un impact catastrophique à long terme sur la santé mentale et physique des victimes, sur leur vie personnelle et leur insertion sociale, avec un risque important de subir un continuum de violences. Il a été démontré que ces violences, par leur impact traumatique durable, produiront encore plus d'inégalités, de précarité, de vulnérabilité, de handicap, de discrimination et d'injustice, dans un processus sans fin qui s'abat sur les personnes les plus vulnérables. La communauté scientifique internationale et l'OMS reconnaissent les violences sexuelles comme un problème de santé publique majeur. Depuis les études de Vincent Felitti et Robert Handa, publiées dès 1998 dans des revues internationales, nous savons qu'avoir subi des violences dans l'enfance est le déterminant principal de la santé 50 ans après. Ainsi, c'est le premier facteur de risque de mort précoce, de suicide, de dépression à répétition, de conduite addictive, de troubles alimentaires, de troubles cardiovasculaires, endocriniens et de nombreuses autres pathologies somatiques. Et qu'avoir subi des violences est le facteur de risque le plus important pour en subir à nouveau ou en commettre tout au long de sa vie. Une grande étude pour l'Organisation des Nations Unies indique que si une femme a subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance, cela multiplie par 19 son risque de subir des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Et pour un homme, le risque d'en commettre est multiplié par 14. Cela s'explique principalement par les conséquences psychotraumatiques des violences et par leur symptôme principal, la mémoire traumatique, qui fait revivre à l'identique les violences avec la même détresse et les mêmes ressentis comme une torture sans fin. Ces mêmes études montrent que pour éviter les conséquences à long terme et le cycle de reproduction des violences de proche en proche et de génération en génération, la mesure la plus efficace est de protéger les victimes et de prendre en charge leur traumatisme et de traiter spécifiquement la mémoire traumatique des violences. La méconnaissance des troubles psychotraumatiques et de leurs mécanismes est à l'origine d'une profonde incompréhension et d'un manque de reconnaissance de ce que vivent les victimes, de leurs souffrances, du danger qu'elles courent et de l'emprise qu'elles subissent. Cette méconnaissance, liée au manque de formation, au désintérêt des professionnels et à leur colonisation par des représentations sexistes, est une grave perte de chance pour les victimes et représente un risque important de subir des maltraitances tout au long de leur parcours. Elle est injustifiable. Donc là, je vais faire une petite pause et vous faire écouter Muriel Salmona qui explique justement ce que sont ces troubles psychotraumatique, la mémoire traumatique, etc. C'est très important de les connaître, de les reconnaître, puisque justement, les symptômes psychotraumatiques des victimes leur sont souvent reprochés et sont finalement, comme ils sont méconnus, sont finalement utilisés pour discréditer les victimes lors des procès pour violences sexuelles. Et donc, reconnaître ces phénomènes de psychotraumatisme, ça serait pour elle vraiment la révolution nécessaire. ainsi que l'importance aussi évidemment d'offrir des soins spécialisés. Donc je rappelle qu'elle est spécialisée dans ce domaine. Alors du coup, je vais vous la faire écouter. Voilà. Voilà. Donc je vais vous faire écouter donc Muriel Salmona, vous allez l'entendre.
Voilà. La définition de la sidération, c'est en fait un état psychologique de paralysie face à une situation qui est une situation qui dépasse l'entendement en quelque sorte, qui est totalement soit horrible, soit complètement incongrue, soit impensable, et qui va mais vraiment paralyser tout l'espace psychique. La personne qui est sidérée se retrouve dans l'impossibilité de réagir, de parler, de bouger. Le mécanisme complet, c'est que la sidération, elle est à l'origine donc d'un blocage des fonctions supérieures, et normalement c'est les fonctions supérieures qui modulent la réaction au stress de l'organisme. Et quand il n'y a pas de contrôle et de modulation par les fonctions supérieures, il va y avoir un survoltage avec une production d'hormones de stress très importante qui ne va pas être contrôlée et qui représente un risque vital pour l'organisme. La surproduction d'adrénaline va entraîner des atteintes possibles au niveau du système cardiovasculaire et au niveau du cortisol. C'est le système neurologique, c'est les neurones qui vont être très impactés par le cortisol. Et c'est là qu'il va y avoir en fait un mécanisme exceptionnel de sauvegarde qui va faire en fait disjoncter le système, puisqu'il faut absolument interrompre cette surproduction d'hormones de stress pour éviter un risque vital. Et donc, comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage, ça va disjoncter et ça va protéger le cœur et le cerveau. Il faut bien différencier sidération et dissociation. La sidération, c'est la paralysie, c'est le fait de ne pas pouvoir réagir. Et puis ensuite, au moment de la disjonction, il y a cette dissociation qui fait qu'il y a une déconnexion émotionnelle et ça donne un sentiment d'irréalité, d'être déconnecté de la réalité, d'être spectatrice de l'événement et d'être, de plus ressentir en fait ce qui se passe, ni la douleur, ni les émotions, comme si c'était irréel, comme si on était à l'extérieur de l'événement et comme si l'événement ne nous concernait pas. Et du coup, la personne peut devenir un petit peu comme une sorte de pantin qu'on va pouvoir utiliser sans pouvoir réagir et sans qu'elle ressente en fait quoi que ce soit de ce qui se passe. Des IRM, donc c'est vraiment des examens d'imagerie en résonance magnétique nucléaire, et ça permet de voir à la fois la sidération, c'est-à-dire on peut voir la paralysie du cerveau. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met quelqu'un dans une IRM qui a été traumatisé, par exemple, et on lui fait revivre le trauma. Ça a été fait, par exemple, sur des vétérans du Vietnam. On lui reconfronte à des images de guerre qui rallument, en fait, sa mémoire traumatique. Et du coup, il va revivre la même situation. Il va se retrouver de nouveau en état de sidération. On voit sur l'IRM que le cerveau, en fait, ne fonctionne pas. Et pour la dissociation, on va voir, en fait, l'hyperactivité de l'amygdale cérébrale, qui va être très, très importante et très colorée. Et on va voir que tout le reste du cerveau est déconnecté par rapport à cette amygdale. Il y a une méconnaissance de tous les mécanismes neurobiologiques, sidération, dissociation, mémoire traumatique, qui font que le plus souvent, on va reprocher aux victimes des symptômes qui sont directement liés au traumatisme et qui sont pour nous, médecins, des preuves du trauma. Et particulièrement, du coup, cette sidération, où on va dire à la victime « mais puisque vous n'avez pas crié, vous vous êtes pas débattu, vous n'avez pas fui, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu viol, par exemple, et que vous étiez consentante, puisque vous n'avez rien dit, rien fait. » Et on va aller rechercher dans leur histoire, sur des problèmes dans leur personnalité, des éléments qui pourraient prouver qu'elle raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a une sorte d'enquête de crédibilité de la victime qui est quelque chose d'intolérable. Et puis, la dissociation aussi, ça fait que la victime, elle n'a pas de bon repérage au niveau temporo-spatial, donc elle ne va pas être précise sur la date, l'heure, la durée des violences. Ça va lui être reproché. Elle va être tellement déconnectée de ses émotions qu'elle va mettre beaucoup de temps avant de pouvoir parler des violences, ou et d'autant plus aller porter plainte. Quand on est traumatisé, on ne peut pas faire certaines démarches. Donc on va le lui reprocher. Pourquoi elle porte plainte si longtemps après? Ça va être un élément sur lequel la défense, dans le cadre de procédures juridiques, va insister sur « il ne pouvait pas savoir que ce qu'il faisait était mal, puisque la victime ne réagissait pas ». J'ai un exemple très récent d'un procès-verbal. C'est vraiment tout ce système très pervers de retournement des phénomènes de preuve. Et ça, dans les procès, on le voit très bien. Donc les agresseurs utilisent ce système-là à la fois pour bloquer et piéger leurs victimes, et à la fois ensuite pour leur défense. Ils vont l'utiliser, vont le réutiliser une deuxième fois. Et la méconnaissance de tout le monde fait que ça passe. Au moment de la disjonction, ce qui disjoncte aussi, c'est le circuit de la mémoire. Et du coup, la mémoire émotionnelle, à partir du moment où ça a disjoncté, toutes les violences qui se produisent ne vont pas pouvoir passer par le circuit habituel de la mémoire et être intégrées par l'hippocampe, qui est le système d'exploitation de la mémoire, pour être transformé en mémoire autobiographique. Tout va rester piégé dans l'amygdale cérébrale, et cette mémoire non intégrée va être susceptible d'envahir la victime au moindre lien qui rappelle les violences. On peut revivre en même temps ce qu'on ressent, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti même aussi. C'est des images, des flashs, des odeurs qui reviennent à l'identique, avec les mêmes émotions, avec une sorte de crise de panique qui envahissent la personne. Les personnes qui sont traumatisées vont devoir mettre en place des stratégies de survie pour ne pas réexposer continuellement. Il y a deux sortes de stratégies de survie. Il y a les conduites d'évitement, c'est-à-dire que ma vie est un terrain miné. Le seul moyen, c'est de ne plus mettre les pieds dessus. Donc on ne bouge plus, on ne pense plus, on s'isole, on contrôle tout. Il ne faut que rien ne bouge, rien ne change. Et petit à petit, les victimes arrivent à développer des petits espaces où elles se sentent en sécurité, avec des personnes sécures, mais il ne faut rien leur bouger. L'autre solution, quand il faut quand même avancer sur le terrain miné, alors qu'on sait qu'il y a des mines et que ça risque de sauter, c'est d'avancer dissocié. Les premières choses qu'on rencontre pour se dissocier, c'est l'alcool, la drogue. Donc des produits dissociants qui reproduisent la dissociation, ou les médicaments. Et puis, ce qui est moins bien compris, c'est les conduites à risque et les mises en danger. Ça peut être se taper dessus, se mordre, se brûler, se couper. Mais ça peut être aussi avoir des conduites à risque au niveau de pratiques sportives très dangereuses, de pratiques aussi automobiles sur la route très dangereuses. Ça peut être aussi des conduites à risque sexuelles. Et puis ces conduites dissociantes, c'est du stress continuel, c'est des mises en danger continuelles, c'est une alcoolisation, c'est une drogue, et c'est ça qui va avoir des conséquences catastrophiques sur la santé, à la fois au niveau cardiovasculaire, au niveau du diabète, c'est toutes les maladies liées au stress. Ça va entraîner des troubles de l'immunité, des troubles respiratoires à cause du tabagisme aussi, le tabac aussi à haute dose, c'est dissociant. Donc toutes ces conduites dissociantes vont faire que, par exemple, quand on a subi des violences sexuelles, des violences dans l'enfance, on peut avoir jusqu'à 20 ans d'espérance de vie en moins. Et c'est le déterminant principal de la santé 50 ans après.
Voilà. Alors, je vais reprendre cette publication, Muriel Salmona, que vous venez d'entendre, qui décrivait les phénomènes de psychotraumatisme. Donc, je poursuis sur cette publication dont le titre est « Légitimer les victimes pour délégitimer les violences ». Cette méconnaissance des symptômes psychotraumatiques des victimes, donc, leur sont souvent reprochés et fréquemment utilisés pour les discréditer, pour disqualifier leurs témoignages, pour les psychiatriser et pour les considérer comme étant à l'origine de leur propre malheur, au lieu qu'ils soient reconnus comme des conséquences normales et universelles des viols, ainsi que des preuves médico-légales de ce qu'elles ont vécu. De plus, les stéréotypes sexistes les plus répandus intègrent ces mêmes symptômes psychotraumatiques et leurs conséquences sur la santé et la vie des femmes. Ils essentialisent ce que sont une fille et une femme, leur personnalité, leur capacité, leur comportement et leur sexualité, dans un processus falsificateur qui alimente sans fin les stéréotypes sexistes, les fausses représentations et la culture du viol, les rendant responsables et coupables des violences qu'elles subissent, voire pire, les considérant comme sans dignité, aimant être violentées et dégradées. À l'inverse, les hommes qui les ont agressées sont dans leur très grande majorité protégés, disculpés, innocentés. Leur sexualité violente est normalisée et tolérée, comme un besoin ou une pulsion incontrôlable. Ils peuvent même être considérés comme les vraies victimes de ces filles et de ces femmes qui les auraient provoquées, manipulées ou accusées à tort. Et c'est comme cela que se construisent des mythes destructeurs, comme les Lolitas, les filles faciles, les tentatrices, les menteuses, celles qui provoquent les hommes et les transforment en agresseurs. Selon ces mythes, ce sont les victimes qui fabriquent les agresseurs, et non l'inverse, ce qui permet d'occulter leur stratégie de prédation. Or, le corps médical, encore trop peu formé au psychotraumatisme et souvent colonisé par des représentations sexistes, fait rarement le lien entre des symptômes pourtant pathognomoniques de traumatisme que présentent les filles et les femmes et les violences qu'elles ont subies. 79% des professionnels de la santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l'enfance de leurs patientes et patients et leur état de santé. Seuls 23% des victimes de viol bénéficient d'une prise en charge médico-psychologique spécialisée, en moyenne, au bout de 10 ans. Les agresseurs bénéficient des symptômes psychotraumatiques qu'ils ont provoqués chez les victimes. La sidération qui paralyse les victimes, la dissociation traumatique et son cortège d'anesthésie émotionnelle et physique, de sentiments d'irréalité et de dépersonnalisation, d'amnésie. La mémoire traumatique qui fait revivre à l'identique mais de façon indifférenciée et non conceptualisée les violences. Les stratégies de survie pour échapper à cette mémoire traumatique avec des conduites d'évitement, de contrôle et d'hypervigilance ou pour l'anesthésier avec des conduites dissociantes à risque, mise en danger, addiction, automutilation, violence envers soi qui font disjoncter le circuit émotionnel en reproduisant un stress extrême. La victime traumatisée, envahie par sa mémoire traumatique, exposée à une culture du viol omniprésente, finit par penser qu'elle est coupable, folle, inadaptée et qu'elle mérite ce qu'elle subit. Les paroles et les mises en scène de l'agresseur qui la colonise durablement par l'intermédiaire de la mémoire traumatique semblent provenir de ses propres pensées et lui faire penser qu'elle n'a aucune valeur, qu'elle est un monstre haïssable et méprisable qui ne mérite pas de vivre. Et ce, d'autant plus que la société, colonisée par ce discours mystificateur, la juge sévèrement et prend fait et cause pour l'agresseur. Alors que la plupart des victimes se mettent en danger pour s'anesthésier, quelques-unes développent des stratégies de survie en adhérant à la loi du plus fort et en reproduisant des violences sur autrui pour anesthésier leur mémoire traumatique. Si on n'est pas responsable des violences qu'on a subies ni de leurs conséquences psychotraumatiques, on est responsable du choix de ces stratégies de survie. Le fait d'exercer des violences sur autrui crée également de la mémoire traumatique que l'agresseur continuera à anesthésier en réitérant les violences qu'il commet, ce qui alimente un processus sans fin de reproduction des violences. La fonction principale de la violence est donc mensongère. Elle permet aux agresseurs d'effacer les traces de la victime qu'ils ont été et d'échapper à l'encombrante mémoire traumatique des violences qu'ils ont initialement subies, puis de toutes celles qu'ils ont commises. Elle leur permet de se mettre du côté des privilégiés et d'assurer l'impunité en dissociant les victimes, qui, anesthésiées et fréquemment amnésiques, se tairont, ce qui efface les traces des violences qu'ils commettent. La victime qu'ils haïssent, c'est eux-mêmes. Ils la font disparaître par un tour de passe-passe en s'attaquant à une autre victime, à qui ils font rejouer leur histoire pour mieux la nier, en déclenchant leur propre anesthésie émotionnelle. Ils ne ressentent plus rien, cette histoire n'est donc pas la leur. La victime a donc une position paradoxale. Elle est d'abord une victime de substitution, indispensable pour faire marcher la machine à effacer le passé traumatique des agresseurs. Mais comme elle est susceptible de rappeler leur passé traumatique à tous ceux qui sont en position dominante en allumant leur mémoire traumatique, elle peut mettre en danger toute la construction illusionniste de la société et il faut l'effacer à tout prix. Elle est donc à la fois indispensable et indésirable. Les victimes sont à éradiquer, mais il faudra en créer sans cesse de nouvelles. Elles sont donc sommées de se cacher ou de disparaître en s'auto-détruisant, à moins qu'elles ne deviennent à leur tour des agresseurs quand la société leur en donne la possibilité, c'est-à-dire quand elles peuvent être en position dominante et si elles s'y autorisent. Les mensonges idéologiques des discours inégalitaires sont donc des facilitateurs de violence, des permis de détruire, offert à des personnes peu regardantes sur leur éthique et leur cohérence intellectuelle pour traiter leur mémoire traumatique aux dépens d'autrui. La mémoire traumatique est le dénominateur commun des violences, de leurs conséquences et de leurs causes. Il résulte clairement de ce qui précède que pour interrompre la production sans fin de violences, il faut éviter que des victimes soient traumatisées et développent une mémoire traumatique. la protection de l'enfance, la lutte contre ces violences et leur impunité, l'accompagnement et le soin des victimes doivent être des priorités politiques majeures. L'enjeu est de ne tolérer aucune violence et aucun discours anti-victimaire, de ne laisser aucune victime seule, de les identifier par un dépistage systématique, de les protéger, d'être d'une solidarité sans faille avec elles, d'œuvrer pour leurs droits et de légitimer leurs paroles en reconnaissant les violences qu'elles ont subies et leurs conséquences psychotraumatiques, de leur rendre enfin justice. Voilà. Donc je mettrai la référence de cette publication donc, de Muriel Salmona, très complète, dont le titre était « Légitimer les victimes pour délégitimer les violences ». Et pour faire un lien en fait qu'elle a fait elle-même, je vais vous parler du docteur Denis Mukwege. En fait, c'est un ami de Muriel Salmona. Et donc, Denis Mukwege dit qu'il y a un universalisme de la souffrance des femmes et il parle du combat commun qu'il mène, en fait, avec Muriel Salmona pour obtenir justice, réparation et une meilleure prise en charge médicale, psychologique et sociale pour les femmes et filles victimes de viol dans le cadre de sa chaire internationale, donc Mukwege, à Liège. Il insiste sur la justice à rendre aux femmes au Congo, où les viols de masse sont une arme de guerre. Et souligne aussi qu'en France, les condamnations pour viol ont régressé de 40% entre 2007 et 2017. L'absence de justice, c'est tout simplement un encouragement, une prime à la violence. Donc je vous cite des mots qu'il a, enfin, ces mots à lui. C'est une interview qui est parue récemment dans Télérama. Où il a dit « L'absence de justice, c'est tout simplement un encouragement, une prime à la violence. Au Congo, la justice ne passe pas, les soldats qui ont commis des viols restent en place, les femmes ont le sentiment de ne pas être protégées car on ne peut pas être protégé par son bourreau. Ma grande surprise, c'est de constater que lorsque vous leur posez la question, ce qu'elles demandent, c'est d'abord la reconnaissance du crime pour retrouver de la dignité. » Une femme qui a été violée, il faut l'écouter, même si vous cherchez ensuite des preuves. La société disqualifie partout la parole des femmes, en France comme ailleurs. La difficulté à obtenir justice est un combat universel. C'est pour ça que nous avons créé, avec ma chère amie la psychiatre Muriel Salmona, qui est une de mes héroïnes, la chaire Mukwege à Liège. Nous voulons que les intellectuels se rassemblent pour réfléchir à ces questions. En droit, on a quand même l'impression qu'une femme, même en France, lorsqu'elle est victime de viol, craint d'aller en justice et risque d'en ressortir humiliée. En Corée du Sud, j'ai rencontré des femmes âgées qui avaient été des femmes de réconfort, entre guillemets, pour les soldats japonais. Quand j'échangeais avec elles, j'avais l'impression de parler avec les femmes de Pansy qui sont noires, pauvres et n'ont jamais eu d'éducation. Elles ont les mêmes mots. Il y a un universalisme de cette souffrance. Voilà, donc je vais faire une petite pause musicale. Qui sera bienvenue, il faut juste que je la retrouve. Voilà, j'ai trouvé. Donc c'est Yo sono Meta de Pietra Magoni.
Ti aspetto nel buio, ho l'abito rosso, stretto alle spalle, le scarpe sbagliate. Non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani, io sono metà. Perle cristalli, riunirsi in un filo, compagni di un unico giro che insieme per quanto siano profondi, tagli asciugheranno. Mi tengo ai tuoi segni, mi spetta il tuo odore, a chiunque ti vuole, io sono metà.
Avec une autre chanson, Si elle parlait, de Myriam Beldy, et je reprendrai après, juste après.
Tout au fond de ses yeux noirs dorment des trésors enfuis, son enfance et son histoire, ce qui n'est pas ni ici, souvenir de son pays.
Sera féministe sur Radio Galère. Voilà, alors je reprends avec malheureusement une mauvaise nouvelle par rapport à l'affaire Alexandra Richard. Nous avons assisté à un déni total de justice. Donc, je vais vous rappeler l'histoire de Alexandra. Donc, pendant 3 ans, Alexandra Richard a subi de graves violences morales, physiques et sexuelles aux mains de Sébastien Geste, son conjoint à l'époque des faits. Ce dernier est allé jusqu'à la frapper dans le ventre avec son poing alors qu'elle était enceinte. Il la menaçait quotidiennement de mort, des menaces sérieuses étant donné qu'il possédait 7 ou 8 fusils au domicile, dont un sous le lit. De plus, il avait déjà tiré sur un homme et a été incarcéré pour tentative d'homicide, gage de sa dangerosité. Le jour du décès de Sébastien Geste, il avait menacé de mort sa conjointe, donc Alexandra Richard, ce qui l'a terrifiée. Quelques heures plus tôt, il lui avait demandé de choisir l'arme avec laquelle il allait la tuer. Elle a d'abord saisi un fusil pour le dissuader de la poursuivre, mais il s'est précipité sur elle. Elle a attrapé le canon de l'arme et le coup est parti. Elle a donc tué son conjoint. Ce tir était accidentel et la scène même relève de la légitime défense. Elle s'est déroulée dans un contexte où la violence montait crescendo et où la vie d'Alexandra et celle de ses enfants étaient en danger. Sébastien Geste était une véritable bombe à retardement dont elle aurait dû être protégée. Eh bien, ce qui s'est passé par rapport au déni de justice, c'est qu'elle a été condamnée en novembre dernier à 10 ans de prison. Elle est maintenue en détention provisoire depuis, pour avoir tué son conjoint violent. Et elle recomparaissait en appel pour la 5e ou 6e fois, je crois, le 19 octobre dernier, donc tout récemment, ça s'est terminé le 21 octobre, au tribunal d'Évreux. Donc c'était sa 7e demande de mise en liberté conditionnelle. Cette demande a été refusée par la cour d'appel de Rouen. Lors de son procès, donc c'est exactement ce dont parlait tout à l'heure Muriel Salmona, donc on l'a décrédibilisé, on a inversé la culpabilité sur la victime. Donc on lui a reproché de s'être défendu tout simplement. On a retenu l'homicide volontaire malgré tous les éléments objectifs apportés par des experts psychiatres qui dépeignent une femme saine qui n'a pas un profil de meurtrière ni de manipulatrice et les experts balistiques qui disent plausible la thèse du coup accidentel. On l'a blâmée pour son fort caractère, on l'a soupçonnée d'instrumentaliser la lutte contre les violences conjugales et de se faire passer pour lâcher type de la victime. Lors du procès, il a suffi de dénigrer sa personnalité pour décrédibiliser sa parole, minimiser, voire nier les violences et faire disparaître l'agresseur du récit comme par magie. L'accusation répétant qu'elle aurait dû partir dans un déni total de ce que sont les violences conjugales, l'emprise, la terreur, les menaces de mort quotidiennes, la destruction par le viol. Partir, c'est justement ce qu'Alexandra a voulu faire. Et lorsqu'elle a annoncé à son bureau qu'elle le quittait, cela a décuplé sa violence. C'est un phénomène très banal, c'est souvent le cas et c'est souvent l'élément déclencheur de 50% des féminicides en France qui, rappelons-le, ont lieu régulièrement tous les 2 jours et demi. La cour d'appel estime que sa libération pourrait engendrer un tribunal médiatique, un trouble exceptionnel à l'ordre public. Du fait de ses soutiens féministes. Donc il faut savoir, c'est complètement incroyable, c'est que ils sont allés jusqu'à interdire les associations féministes qui la défendent, en fait, qui l'assistent. Eh bien, les associations ont été empêchées d'assister au procès. Une justice aveugle, ce reproche donc, qu'on lui a fait d'engendrer un trouble à l'ordre public est inique, bien sûr, puisque la justice est éminemment politique. Les maltraitances institutionnelles contre les femmes sont politiques. L'impunité des agresseurs est politique. Le fait qu'Alexandra ait dû tuer son bourreau pour sauver sa peau est politique. On assiste donc au même verdict qu'en première instance, à croire que la justice n'a rien appris sur la légitime défense des femmes victimes de violences depuis Alexandra Lange, Adriana Sampaio, rien sur l'emprise depuis Valérie Bacot, depuis Jacqueline Sauvage. Donc je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, vous pouvez agir par rapport à la loi sur la légitime défense pour Alexandra Richard, pour toutes les autres, vous pouvez signer ou même plus encore, vous allez voir sur le net, vous trouverez donc la loi sur la légitime défense et vous trouverez une action qu'il s'agit d'envoyer aux députés. pour demander un changement par rapport à la légitime défense qui parce qu'il y a problème avec le code pénal actuellement. Vous voyez justement qu'il ne protège pas les femmes dans le cas de violences conjugales. Le code pénal identifie des situations dans lesquelles se défendre est présumé légitime, car la situation est admise comme nécessairement dangereuse, par exemple lorsqu'un cambrioleur s'introduit de nuit dans un domicile ou lorsqu'une personne subit un vol commis avec violence. Les juges refusent en revanche, en dépit des statistiques imparables, la première cause de décès des femmes de 18 à 45 ans dans le monde, rappelons-le, est le féminicide conjugal. Donc les juges refusent de reconnaître qu'un conjoint violent puisse être tout aussi dangereux et imprévisible. On présume qu'une femme qui subit quotidiennement la violence et qui un jour se défend, se venge. On présume qu'elle se fait justice elle-même. Cette croyance tenace est proprement sexiste et totalement infondée, puisque ces femmes vivent dans une peur réelle et réaliste de la mort. Celui qui menace sa conjointe régulièrement de mort, a fortiori s'il a une arme, comme ça c'était le cas donc pour le conjoint de Alexandra Richard, prend indiscutablement le risque que celle-ci le prenne au sérieux. Cette situation illégale, intolérable et à risque dont il est l'auteur, c'est paradoxalement à sa victime qu'on en fait porter la responsabilité. Il y a donc une incontestable cécité de la justice française quant à la dangerosité des hommes violents et à la menace de mort qui pèse sur leur conjointe. C'est ainsi que, faute d'une analyse clairvoyante par les juges de la situation de danger permanent dans lesquelles se trouvent ces dernières, la notion de proportionnalité de la réponse au danger, qui est constitutive de la loi sur la légitime défense, est presque toujours refusée aux femmes victimes de violences conjugales qui ont tué leur conjoint, car le danger est sous-estimé, voire nié. Et c'est souvent par ce biais, celui de l'absence présumée de proportionnalité, que la légitime défense ne leur est pas reconnue et qu'elles sont condamnées. Donc on demande de changer cette loi. On demande aussi qu'il y ait une formation initiale et continue des magistrats qui normalement est prévue par la Convention d'Istanbul, texte international sur les droits des femmes, très très bon texte, qui n'est pas respecté puisqu'il a été ratifié par la France en 2014. Et voilà. Donc je vous encourage à aller voir pour agir dans ce sens. Il est temps que la justice protège les victimes et non leurs bourreaux. Donc changeons et clarifions la loi 122.5. Elle s'appelle, donc si vous tapez sur internet pour retrouver cette action, vous écrivez loi 122-5 sur la légitime défense et vous la trouverez certainement. Sinon, il y a l'association Osez le Féminisme qui agit, donc vous pouvez aussi aller sur leur site. Donc il faut savoir que 70% des homicides conjugaux qui sont commis par des femmes ont lieu dans un contexte de violence dont elles sont victimes. En 2015, rappelez que l'affaire Jacqueline Sauvage a ouvert le débat sur la légitime défense des femmes battues. Et en France, elles sont chaque année une dizaine à tuer leur conjoint après avoir subi des violences. Pourtant, seules 3 femmes ont à ce jour bénéficié du régime de la légitime défense et ont été acquittées, non sans se battre. Donc il s'agissait de Floriane Harel, Adriana Sampaio et Alexandra Lange. Voilà. Par rapport aux actions à mener pour une vraie justice, je vous encourage aussi à aller sur le site de Face à l'inceste, qui agit aussi pour changer, par exemple, notamment une pétition pour rendre le signalement des enfants en danger obligatoire, ce qui n'est pas le cas en France, alors que c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe. Donc j'en avais parlé aussi la semaine dernière. Voilà. Donc je vais changer de sujet et vous parler. Regarde l'heure qu'il est. Donc vous parler de laïcité. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et pour cela, je vais juste vous lire une petite publication que j'ai trouvée intéressante au sujet de la laïcité. Qui est une petite chronique intempestive écrite par Henri Peña Ruiz qui s'intitule « Face aux oppressions, la liberté de se définir est la plus belle conquête de la laïcité ». Donc, je suis une féministe universaliste qui défend la laïcité, qui est seul bouclier, un bouclier indispensable pour les droits des femmes, les religions étant toutes misogynes et clairement contre l'égalité homme-femme. Et voilà, qui diabolise le corps des femmes, la sexualité des femmes, etc. Donc c'est aussi un thème que j'aborde régulièrement. Donc, laïcité. Alors je vous lis ce petit texte. Donc Henri Peignard-Ruiz. Aujourd'hui, la question de l'identité se trouve écartelée entre la mondialisation impérieuse et la montée communautariste. À rebours des oppressions traditionnelles, la liberté personnelle de se définir reste la plus belle conquête de la laïcité. Mondialisation et communautarisme, une identité écartelée. Aujourd'hui, la question de l'identité personnelle se trouve écartelée. D'un côté, une mondialisation impérieuse, voire inhumaine, qui exalte l'individualisme, tout en le canalisant par des conditionnements publicitaires et idéologiques uniformisants. De l'autre, les compensations identitaires apparentes que proposent des religions, à nouveau avides de pouvoir politique et de restauration de traditions rétrogrades. À l'identité personnelle que chacun est libre de se définir, semble s'opposer l'identité collective d'un groupe humain qui attend des individus qui le composent une soumission inconditionnelle au nom de la solidarité du groupe. La notion même d'identité collective consacre une logique de l'allégeance que l'on retrouve dans le communautarisme. Celui-ci impose littéralement le primat de la communauté particulière à la fois sur les individus et sur la communauté humaine universelle. Risque de guerre entre communautés. D'un même mouvement, le souci de l'individu et celui de l'universel sont donc mis à mal. L'enfermement communautariste dans le particularisme religieux et coutumier nie l'individu, qu'il réduit à un échantillon anonyme dans le moment même où il récuse toute référence universelle. Celle-ci consigne en effet dans les droits reconnus à tout être humain des libertés fondamentales qui transcendent la diversité des us et coutumes. Par exemple, le droit à l'intégrité physique conduit à condamner l'excision du clitoris, horrible mutilation physique, sexuelle et sensuelle. Un autre exemple, tu trahis ta communauté, telle est la condamnation menaçante par laquelle les islamistes refusent aux femmes la liberté de ne pas porter le voile. Tel est bien le communautarisme, qui exige l'allégeance, voire l'effacement de toute singularité individuelle librement choisie, avec à la clé le risque majeur d'affrontements intercommunautaires dès lors que l'appartenance prime absolument, sans distance aucune, sur la liberté de la personne. La montée des communautarismes ainsi compris porte donc en elle le danger de la guerre entre les communautés, en même temps que celui de la négation de la liberté individuelle au nom de la fidélité au groupe. Sacralisation du machisme. En quoi la laïcité est-elle concernée par ces rappels ? Perçue à tort comme une machine de guerre contre les religions, alors qu'elle assure leur égale liberté dans les limites du droit commun, elle est combattue par tous les moyens possibles, souvent hypocrites, au nom de cultures et d'identités collectives qui souvent sont mutuellement exclusives. Les communautarismes religieux se font entrepreneurs identitaires au risque de ressusciter la guerre des dieux. Il est grave en effet de convaincre les personnes que le fait de choisir librement ses références spirituelles et son mode d'accomplissement porte atteinte au groupe. C'est une version fanatique de l'identité, sans distance, que l'on donne ainsi. Au nom de la culture et de la religion, le deuxième sexe subit la sacralisation de la domination machiste. Dans Tartuffe, le dévot intime l'ordre à Dorine de cacher son sein. Dans l'islamisme politique, la femme doit se voiler entièrement, car sinon elle est rendue responsable du désir de l'homme, ainsi déchargée de sa responsabilité quand il ne maîtrise pas ce désir. Bref, la laïcité émancipe chacune et chacun au niveau le plus radical, celui de la libre définition de l'identité. Elle rend en effet possible le libre choix d'une façon d'être et de vivre en libérant la personne de toute aliénation à une vision du monde imposée, qu'elle soit religieuse ou idéologique. Ne demeure plus alors que les droits fondamentaux des êtres humains dans les limites qu'impose l'ordre public pour assurer leur coexistence. La liberté personnelle de se définir et de choisir sa vie, voire sa mort, est la plus belle conquête de la laïcité, à rebours des oppressions traditionnelles. Voilà, donc face aux oppressions, la liberté de se définir est la plus belle conquête de la laïcité, chronique intempestive par Henri Peignaruis. À lire aussi un livre qu'il a écrit, Promouvoir le respect des principes de la République. Voilà. Alors du coup, ça va me permettre de faire un lien, puisqu'il a parlé donc de l'islam politique, de l'islamisme et du voilement des femmes. Eh bien, j'avais gardé un texte précieusement de côté et je ne l'ai pas encore, dévoilé dans cette émission. Et il m'est très précieux. Donc je vais vous, le lire en fait. Il s'agit d'extraits de livres en fait, des extraits du combat de Chador Djavan. Et voilà, par rapport à certaines thématiques. Donc, qui est Chador Djavan? Le père de Chador Djavan a élevé sa fille dans l'amour des livres et la détestation des mollahs. Après la révolution islamique en Iran, elle est forcée d'arrêter de lire de grands auteurs pour étudier le Coran et elle est voilée de force. En juin 1980, alors qu'elle a 13 ans, elle est incarcérée 3 semaines pour avoir manifesté contre le régime. Elle est tabassée, elle a 2 côtes cassées. Elle arrive en France en 1993 sans être francophone. Elle fait l'auto-apprentissage du français. Elle s'inscrit à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle y rédige son mémoire qui s'intitule « L'endoctrinement religieux et l'islamisation du système d'éducation en Iran après l'instauration du régime khomeiniste ». Une étude basée sur l'analyse des manuels scolaires. Puis elle devient écrivaine. Elle est passionnée d'échecs. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Elle a écrit de nombreux livres, articles ou tribunes dans les journaux. Donc voilà, je vais vous citer quelques livres qu'elle a écrits. Le dernier livre, je crois, c'était « Les putes voilées n'iront jamais au paradis ». « Bas les voiles », un cri du cœur de Chador Djavan. Voilà. Et puis, on aura plein d'autres. Donc, je vais vous lire quelques extraits. Alors, sur le voile. Chador Djavan. J'ai porté 10 ans le voile. C'était le voile ou la mort. Je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que c'est que porter le voile? Habiter un corps voilé? Que signifie être condamné à l'enfermement dans un corps voilé, puisque féminin? Qui a le droit d'en parler? J'avais 13 ans quand la loi islamique s'est imposée en Iran, sous la férule de Khomeini, rentrée de France avec la bénédiction de beaucoup d'intellectuels français. Une fois encore, ces derniers avaient décidé pour les autres de ce que devait être leur liberté et leur avenir. Une fois encore, ils s'étaient répandus en leçons de morale et en conseils politiques. Une fois encore, ils n'avaient rien vu venir, ils n'avaient rien compris. Car ils continuent, ils signent, ils pétitionnent ces intellectuels. Ils parlent de l'école, où ils n'ont pas mis les pieds depuis longtemps, des banlieues où ils n'ont jamais mis les pieds. Ils parlent du voile sous lequel ils n'ont jamais vécu. Ils décident des stratégies et des tactiques, oubliant que celles dont ils parlent existent, vivent en France, pays de droit, et ne sont pas un sujet de dissertation, un produit de synthèse pour exposer en 3 parties. Cesseront-ils jamais de paver de bonnes intentions l'enfer des autres, prêts à tout pour avoir en leur nom en bas d'un article de journal? Peuvent-ils me répondre, ces intellectuels? Pourquoi voile-t-on les filles? Seulement les filles? Les adolescentes de 16 ans, de 14 ans, les fillettes de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans, de 7 ans? Pourquoi cache-t-on leur corps, leur chevelure? Que signifie réellement voiler les filles? Qu'est-ce qu'on essaie de leur inculquer, d'instiller en elles? Car au départ, elles n'ont pas choisi d'être voilées. On les a voilées. Et comment vit-on? Habite-t-on un corps d'adolescente voilée? Après tout, pourquoi ne voile-t-on pas les garçons musulmans? Leur corps, leur chevelure, ne peuvent-ils pas susciter le désir des filles? Mais les filles ne sont pas faites pour avoir du désir, dans l'islam seulement pour être l'objet du désir des hommes. Ne cache-t-on pas ce dont on a honte? Nos défauts, nos faiblesses, nos insuffisances, nos carences, nos frustrations, nos anomalies, nos impuissances, nos bassesses, nos défaillances, nos erreurs, nos infériorités, nos médiocrités, nos veuleries, nos vulnérabilités, nos fautes, nos fraudes, nos délits, nos culpabilités, nos vols, nos viols, nos péchés, nos crimes. Chez les musulmans, une fille, dès sa naissance, est une honte à dissimuler, puisqu'elle n'est pas un enfant mâle. Elle est en soi l'insuffisance, l'impuissance, l'infériorité. Elle est l'objet potentiel du délit. Toute tentative d'acte sexuel par l'homme avant le mariage relève de sa faute. Elle est l'objet potentiel du viol, du péché, de l'inceste et même du vol, puisque les hommes peuvent lui voler sa pudeur d'un simple regard. Bref, elle est la culpabilité en personne, puisqu'elle crée le désir lui-même coupable chez l'homme. Une fille est une menace permanente pour les dogmes et la morale islamique. Elle est l'objet potentiel du crime, égorgée par le père ou les frères pour laver l'honneur taché, car l'honneur des hommes musulmans se lave avec le sang des filles. Une fille est considérée comme une honte et un danger. Pensez donc, elle peut porter atteinte à l'honneur des messieurs. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi l'homme se sent déshonoré si la femme transgresse les règles de la pudeur. Pourquoi l'honneur des hommes musulmans s'inscrit-il sur le corps des femmes musulmanes ? Qu'ils assument leur honneur tout seuls. Je garde le souvenir de scènes terribles. Je me souviens d'une femme en couche implorant le médecin dans un hôpital iranien. « Si c'est une fille, jetez-la à la poubelle. Si je rentre à la maison avec une fille, mon mari me tuera. » Je rends ici hommage au film de Jafar Panahi, Le Cercle, qui met en scène la malédiction de naître fille dans un pays musulman. Habiter 10 ans durant, un corps enfoui sous le noir, un corps condamné à l'enfermement, laisse des marques indélébiles. Quoi de plus injuste, de plus aliénant, que d'infliger à une adolescente l'enfermement sous le noir et la honte de son corps, parce qu'il est féminin. Le voile n'est pas moins grave que l'excision. Il n'y a pas de jour avec et de jour sans. La jeune fille devient un être sous le voile. Ça fait partie de son être social, psychologique, sexuel, personnel. En voilant une fille, on lui inculque son infériorité, la culpabilité de sa sexualité. Et surtout, on lui dit qu'elle n'est pas dans le droit, qu'elle n'a pas le droit. Lorsqu'on voile une gamine, on lui inculque d'emblée que si une parcelle de sa peau et de ses cheveux dépasse de ce tissu, toute tentative de viol relève de sa responsabilité. Et nous savons que cela se passe dans certains pays. Dire « le voile est mon choix » ne dit pas ce qu'est le voile. Les islamistes ont piégé tout le monde. Tout le monde relaie le discours des islamistes. Je suis profondément choquée que des marques de mode comme Marks & Spencer proposent des maillots de bain intégraux qui cachent tout le corps. Dans les sociétés musulmanes, les femmes sont invisibles, enterrées, parce qu'on ne peut pas les exterminer. On en a besoin pour procréer et pour assouvir les besoins sexuels des messieurs. Comme on ne peut pas les exterminer, on les ensevelit sous le noir. Dans tous les systèmes les plus barbares, on voile les femmes. Pourquoi le supporte-t-on ici ? Parce qu'il s'agit de femmes et de musulmanes. Au nom de la différence culturelle, pourquoi ne pas accepter la lapidation et l'excision, en ce cas ? Dans tous les pays musulmans, il y a des mariages de jeunes mineurs avec des messieurs vieillissants. C'est une différence culturelle, n'est-ce pas ? Mais ici, elle est considérée comme un délit, la pédophilie. Qu'en pensent les intellectuels et les islamologues ? Je me suis décidée à écrire quand j'ai vu des gamines de 12 ans commencer à porter le voile. Et quand j'ai entendu certains intellectuels dire que renvoyer de l'école les élèves voilés ne fait qu'aggraver leur situation. Ces personnes bien intentionnées n'ont pas pensé que le fait de tolérer des jeunes filles voilées à l'école ne ferait qu'accroître la pression sur les adolescentes musulmanes. Certains défenseurs du voile expliquent que c'est une façon pour les filles des cités de se protéger des garçons. C'est inadmissible. Cela revient à s'incliner devant la violence. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que c'est dans les pays où les femmes sont voilées qu'il y a le plus de prostitution et de pédophilie. Moi, ce que je demande, c'est qu'on interdise le port du voile pour les mineurs. Il faut savoir que dans l'islam, une fille voilée est considérée comme nubile. Autrement dit, c'est une fille qu'on met sur le marché du mariage et par conséquent sur le marché du sexe. Quand on voit des fillettes de 9 ans porter le voile, on est quasiment dans la pédophilie. Il y a des lois en France pour protéger les mineurs de toute forme d'abus sexuels. Voilà pourquoi je réclame l'interdiction de faire porter le voile aux mineurs. Le voile est une violence physique et psychosexuelle infligée aux filles. Il équivaut à disposer de leur corps, à définir l'adolescente comme un objet sexuel destiné à satisfaire le désir des hommes. C'est de la barbarie. Le voile définit la femme psychologiquement, socialement, sexuellement et juridiquement comme sous-homme. Le voile est l'étoile jaune de la condition féminine. Il marque les corps féminins comme humiliés, coupables, source d'inquiétude, angoissants, menaçants, sales, impurs, source de malaise et de péché. Ces objets malsains, convoités, désirés et interdits, dissimulés et exposés, enfermés, violentés, circulent autour des hommes comme des ombres. Si aujourd'hui des jeunes juifs commençaient à porter l'étoile jaune en clamant « c'est ma liberté », si des jeunes noirs décidaient de porter des chaînes au cou et aux pieds en disant « c'est ma liberté », la société ne réagirait-elle pas? Quand on tente de nuancer en employant les mots « foulard » ou « bandeau », je rétorque. Entre la burqa et le foulard coloré, la signification est la même. Parler de foulard, de bandeau n'est qu'une lâcheté sémantique, c'est une misérable ruse rhétorique. Garçons et filles, femmes et hommes peuvent porter la croix ou la main de Fatma au cou qui font référence à des personnages religieux et à la fois chrétiennes ou musulmanes. Il s'agit d'un ornement, alors que le voile est réservé à la gente féminine. Sur le plan religieux, historique, anthropologique, social et juridique, il y a des significations, des fonctions et une portée qui structurent la société islamique. Le voile concrétise, matérialise l'apartheid sexuel, ainsi que l'infériorité des droits féminins. Il est le symbole de l'idéologie islamique, le drapeau de l'islamisme, de l'Oumma. Je montre aussi pourquoi voiler les adolescentes et les femmes était un préalable indispensable pour amorcer la réislamisation massive de la jeunesse issue de l'immigration musulmane en empêchant cette dernière d'être intégrée totalement par l'Occident impie. Justement pour créer enfin une communauté musulmane qui serait anti-occidentale. La méthode de réislamisation en Occident est identique à celle utilisée dans les pays musulmans comme l'Iran, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, car elle opère avant tout sur la jeunesse musulmane. Porter le foulard ici est un appui aux dictatures islamistes qui imposent la burqa là-bas. Le voile est l'emblème même du dogme islamiste. L'islam peut tout à fait vivre sans, mais il n'y a pas de pays islamiste sans le voile. Alors voilà ce qu'elle dit sur l'islamophobie et sur la loi 2004. En 2003 et 2004, à propos de la loi contre les signes ostentatoires à l'école, on a répété « ça va stigmatiser la communauté musulmane » comme s'il existait une communauté monolithique qui adhérait dans sa totalité au port du voile. Alors qu'on sait que la grande majorité des musulmans en 2003-2004 étaient contre le port du voile. Les idéologues de l'islam lancent des formules justement pour que les médias les reprennent, en l'occurrence afin de faire exister cette communauté monolithique qui inclurait tous les dits musulmans sans exception. Le but était de faire exister cette communauté dans l'inconscient collectif des non-musulmans, alors qu'elle était inexistante dans la réalité, tout en incitant les jeunes issus des familles musulmanes à donner corps à cette communauté. Les islamistes ont opéré un tour de passe-passe qui est un véritable exploit. Ceux qui critiquent dans la religion ses aspects les plus totalitaires se voient traités sous le nom d'islamophobes, de racistes et de xénophobes, au même titre que des militants d'extrême droite. Quand les mots perdent leur sens, la déraison triomphe. Le terme d'islamophobie fut inventé, on ne le dit jamais, par des mollahs iraniens juste après la révolution islamique. L'islamophobie fut l'anathème jeté sur les quelques centaines de milliers d'opposants que le régime islamiste a exécutés. Tous ceux qui n'adhérèrent pas au régime islamiste furent considérés comme islamophobes, ennemis de l'islam, et furent mis à mort sans avoir droit à un procès. L'islamophobie résume l'idéal totalitaire d'un régime islamiste, pour qui toute opposition est considérée comme une atteinte à l'islam et à ce titre justiciable de la peine de mort. Parler d'islamophobie à propos de ceux qui critiquent les dogmes de l'islam, c'est évidemment entrer dans le jeu des islamistes. On peut s'étonner qu'un certain nombre d'intellectuels et de politiques aient à leur tête le MRAP et entériné sans sourciller, en France et en Europe, l'usage d'un terme qui a tout d'une machine de guerre idéologique. Alors maintenant sur le thème du relativisme. Tout d'abord, il n'existe pas d'être humain qui, dans l'absolu, ne croit à rien. Nous avons tous des croyances religieuses ou spirituelles. La croyance dans l'absurdité de l'existence, selon la formule de Camus, est une croyance aussi. Même les plus matérialistes d'entre nous ont des croyances. Ils croient par exemple qu'après la mort, l'être humain redevient matière première, retourne à la terre. Toute hypothèse concernant l'avant-naissance et l'après-mort relève de la croyance, car il n'existe à ce jour aucune certitude scientifique et expérimentale à ce sujet. L'important n'est pas le contenu de la croyance. Chacun croit à ses croyances supérieures à celles des autres. L'important, c'est que dans une démocratie, il n'y ait pas de hiérarchie des croyances, qu'il n'y ait pas d'un côté les mauvais croyants et de l'autre les bons croyants, ou d'un côté les croyants et de l'autre les non-croyants. Cette distinction valorise, crédibilise, institutionnalise les croyances des uns, les croyants, au nom d'une sacralité infondée et insondable, au détriment des croyances des autres, les non-croyants. Sans croyance, les non-croyants sont appelés à respecter les croyances des croyants. La hiérarchie des croyances, c'est le début d'une dérive dictatoriale. Et pendant que l'État est préoccupé par les besoins et les demandes spécifiques des derniers croyants, sans même parler des menaces terroristes, les problèmes de tous, comme le chômage, la pauvreté, la précarité, le logement, sont relégués au deuxième plan. Qui aurait pu imaginer il y a quelques décennies, en 1980 par exemple, qu'en France, on assassinerait des journalistes et des dessinateurs parce qu'ils avaient blasphémé? Même un Welbeck aurait été à milieu d'inventer une fiction aussi improbable. Le simple constat de la progression des dogmes religieux au détriment de la pensée rationnelle en Europe durant ces 30 dernières années force à s'interroger sur son avenir. Il ne faut pas oublier que la culture, au sens anthropologique du terme, est totalisante. Sous ce qu'on appelle le trait culturel, parfois se cachent des pratiques barbares. En outre, pratiquer sa foi ne veut pas dire imposer les dogmes moyenâgeux dans l'espace public. La pratique de la foi est distincte de l'obéissance aux dogmes religieux qui se veulent au-dessus des lois démocratiques. Aucun des cinq piliers de l'islam n'exige une pratique ostentatoire. On peut très bien pratiquer sa foi musulmane chez soi. Je pense que pour pouvoir vivre en paix, il est temps d'affirmer que la foi, comme la sexualité, relève de l'intimité et se pratique dans l'intimité. Il est temps de dire que l'on ne discute pas avec les représentants du totalitarisme islamiste. On le condamne et on le combat. Il y a trop à faire dans nos banlieues, trop à faire dans le domaine de l'éducation, du travail et de l'égalité des chances. Il y a eu trop de retard pris pour qu'on puisse admettre qu'aujourd'hui que des islamistes extrêmes deviennent les porte-parole des jeunes Français qui se sentent exclus. C'est notre responsabilité commune, c'est la responsabilité de la République et de ses représentants de faire en sorte que cesse cette situation perverse et absurde. L'immigration est une chance pour la France. Et la démocratie est une chance pour l'immigration. Mais il faut que les promesses soient tenues. Sur la démission des politiques et des intellectuels, voilà ce qu'elle dit. Je suis en colère parce que nous sommes confrontés à la bêtise. Que signifie être tolérant quand on se trouve devant l'intolérable? Face à un islamiste de l'UOIF, j'ai l'impression de revenir en arrière et de me retrouver en Iran. C'est ça qui me met hors de moi. Aujourd'hui en France, il y a des hommes plus dangereux que les islamistes dans les pays musulmans. Et ils sont les interlocuteurs des pouvoirs publics. Pouvoirs publics qui se comportent comme s'ils découvraient aujourd'hui seulement qu'il y a des banlieues et des ghettos. Depuis plus de 10 ans, on a donné une certaine autorité à des islamistes qui exercent leur pression dans les cités. C'est comme si on faisait de nos banlieues une sorte de protectorat ou de colonie. Au lieu de s'attaquer aux causes de la violence, on opte pour la répression. Les immigrés subissent une répression double, celle qui découle de la politique sécuritaire du gouvernement et celle qui consiste à les placer sous une autorité religieuse pour avoir la paix. Pour l'instant, ça marche, mais ça ne tiendra pas. Je suis pessimiste. Cette politique démissionnaire fait le lit du Front National. On est en train de nous dire que les droits de l'homme seraient interprétés comme une humiliation pour les musulmans. C'est faux. Les islamistes l'interpréteraient ainsi, mais ils représentent une infime minorité de musulmans. Il y a des dizaines d'associations de femmes d'origine maghrébine qui demandent au contraire qu'il y ait une loi. Elles disent qu'il ne faut pas accepter le voile à l'école, sinon on ne pourra plus ne pas le porter. Je reviens de l'enregistrement d'une émission à laquelle participait une femme voilée. Elle a fait deux fois le même lapsus. Elle a dit « Il faut lutter contre les filles qui ne veulent pas porter le voile ». C'est révélateur, non? Le drame aujourd'hui, c'est que les politiques laissent parler la peur au lieu de s'en tenir au droit. Je n'apprécie guère un certain discours sociologique qui prône la tolérance du voile au nom du droit à la différence et du respect des cultures. À ceux qui tiennent ce discours, je dis « Portez le voile pendant un an et revenez discuter avec moi. Que connaissent-ils du voile? Que savent-ils de l'islam ?» C'est cela aussi que je reproche à certains intellectuels français. Ils abusent de leur position d'intellectuel pour se prononcer sur tout et n'importe quoi. Même dans les pays musulmans, le fait de faire porter un voile aux mineurs est un comportement intégriste. À un moment de son histoire, la France a su remettre à leur place les dogmes catholiques. Pourquoi n'en ferait-on pas autant avec les dogmes de l'islam? Quand je dis cela, ces intellectuels me regardent d'un air gêné. Voilà. Je vais vous laisser après... ces paroles si brillantes. Merci, à la semaine prochaine.